Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. C'est passé, qu'est-ce que ça vous inspire? Répondez directement sur notre page ou sur la page de l'émission Accès libre en pianotant canalem.vusezvoix.com. On prend des nouvelles du handicap à Québec avec Michel Lambert de CKIA et on s'intéresse à la voie vers les études avec une ressource en ligne, akepsguide.org, avec Marie-Hélène Tanguay. En table ronde, une réunion assez rare de groupes et d'intervenants qui œuvrent tous les jours pour l'avancement de l'accessibilité, j'oserais dire à 360 degrés. Et enfin, on reçoit Laurence Parent, l'activiste bien connue qui vient d'être désignée représentante des usagers et des usagères du transport adapté au conseil d'administration de la STM. Dans quelques instants, toujours en suite de ces journées internationales des personnes handicapées, on reçoit Jérôme Bobin, directeur général d'Handicap International Canada, pour célébrer les 20 ans de la Convention d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. Tout ça sur Canal M, la radio de Vusezvoix. C'est aujourd'hui que nous célébrons la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Donc, ce traité, voire ce moment historique, a été très associé à Lord Axworthy de l'ancien gouvernement libéral au fédéral, mais aussi, rappelons-le, c'est très important, au nécessaire organisme Handicap International Canada. Donc, nous avons avec nous Jérôme Bobin, qui est directeur de l'organisme et qui est en direct de la capitale canadienne. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. En fait, c'est une journée assez déterminante, non seulement pour votre organisme, mais pour le Canada, mais aussi pour tout le monde, j'oserais dire. Vous êtes à Ottawa pour les 20 ans de la Convention d'Ottawa, c'est bien ça?
Oui, oui, en effet. D'ailleurs, je m'excuse pour le son. Le son n'est peut-être pas très bon parce qu'on est en effet à une conférence qui vise à célébrer les 20 ans de ce traité, donc ce traité qui a été ouvert à la signature en 1997, ici à Ottawa, et qui a été une vraie victoire contre les armes, contre la barbarie des armes qui faisait énormément de victimes à travers la planète à cette époque, et qui est vraiment une initiative conjointe du gouvernement canadien de l'époque et de la société civile internationale, dont Handicap International, mais d'autres organisations humanitaires aussi.
Mais il faut quand même vous remercier. Rappelons que c'est une campagne déterminante, très importante pour votre organisation. Bravo, je dois vous dire, vous êtes là pas pour rien. Vous êtes nécessaire, bravo.
Merci. Il faut dire qu'on a gagné ce combat contre les mines antipersonnelles avec l'appui de la population, en fait, de tous les pays dans lesquels on intervient. Parce qu'à l'époque, 20 ans en arrière, 20, 25 ans en arrière, on a réussi à mobiliser les gens pour qu'ils s'engagent et qu'ils demandent à leurs États, à leurs dirigeants politiques, d'interdire ces armes qui faisaient à l'époque près de 30 000 victimes par année.
Ah oui, c'est très important, il faut le savoir. Puis vous avez réussi, évidemment, le gouvernement canadien, les Nations Unies éventuellement, à rallier 160 pays. Ils se sont engagés dans ce traité qui proposait quoi, en fait, à l'époque? Mais encore aujourd'hui?
Alors, il est très simple. Hein. Il propose tout simplement d'interdire la fabrication, l'usage, l'utilisation, le commerce des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, c'est des petits explosifs que beaucoup de pays dans le passé ont utilisés, ont mis dans les territoires pour éviter l'accès ou pour éviter de fuir d'un territoire. Et puis, à une époque, c'était devenu tellement un fléau qu'une victime toutes les 20 minutes explosait sur ces armes-là. Et puis, le principe de ces armes, c'est que ça ne tue pas. Ça fait des personnes amputées et donc des personnes nouvellement handicapées. Et donc, ça fait peser tout un travail et des soins de santé, des soins d'accompagnement sociaux importants sur la société qui est touchée par ces mines antipersonnelles.
Mais avouons quand même que vous êtes contre les bombardements de manière générale, mais évidemment, les mines antipersonnelles, comme vous le dites, ont causé du handicap partout dans le monde. Est-ce que le Canada, à l'époque... en fait, comment a réussi ce tour de force, le Canada, à l'époque?
Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, vous le citiez tout à l'heure en introduction, Lloyd Axworthy, en fait, a décidé d'aller de l'avant, même si les gros États, les gros pays n'étaient pas, ne l'accompagnaient pas. Donc, il a plutôt pris une stratégie de réunir les petits et moyens États autour d'une vraie ambition de sauver des vies Et puis il s'est dit, ben, ceux qui viendront nous joindre quand ils le pourront, quand ils le voudront. Et ça a été gagnant parce que du coup, ça a fait qu'on a eu beaucoup d'États qui ont pu signer ce traité et qui l'ont rendu finalement efficace sur le terrain parce qu'il y a eu très peu depuis d'utilisation de nouvelles mines antipersonnelles.
Donc ça a fonctionné en quelque sorte. Cette convention-là a réellement convaincu des pays de ne plus produire ou soutenir la production de mines antipersonnelles.
Oui, elle a tellement bien fonctionné que quelques années après, on a renouvelé l'opération avec le traité contre les sous-munitions. Donc, c'est un autre type d'arme. Mm-hmm. Les armes, vous parlez des bombardements explosifs, c'est un peu ça. C'est des obus qu'on tire par des avions ou qu'on tire de l'artillerie et qui libèrent tout un tas de petites bombes explosives et qui ont le même effet finalement que des mines antipersonnelles. Donc, le traité d'Ottawa a servi d'exemple aux autres traités de désarmement qui ont suivi derrière.
C'est heureux au moins que c'est fait école. C'est sûr que vous le dites, là, le problème de toutes ces bombes, en général, les bombes, c'est un problème, mais le problème de toutes ces bombes, c'est que ça touche les sociétés civiles, les civils. Et je sais que vous menez actuellement des actions, notamment en Colombie. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage, Jérôme Bobin?
Oui, ça fait depuis 1998 qu'on est actif en Colombie. Et d'ailleurs, justement, je suis aujourd'hui à Ottawa à la conférence avec une survivante de mines antipersonnelles qui nous vient de Colombie et qui est venue témoigner de sa situation. Donc, notre activité en Colombie, elle est diverse, mais elle se consacre sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Beaucoup les victimes de mines antipersonnelles, mais pas seulement, avec des soins de réadaptation physique, des réadaptations fonctionnelles, mais aussi de l'accompagnement psychosocial, des groupes de parole pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur nouvelle vie, finalement, et dans leur redonner les moyens de pouvoir participer comme il faut à la société.
Parce qu'on a souvent l'impression, tristement, que la participation sociale ou la réadaptation, j'oserais dire, vers la participation sociale, ça existe juste dans les pays riches. C'est un luxe, au fond.
C'est presque comme ça qu'on le voit. Considérer, mais dans tous les cas, c'est très important, y compris dans nos pays à nous d'intervention, les pays les plus pauvres ou les pays en développement. Mm-hmm. Et puis la Colombie, on a aussi un autre bel enjeu depuis 2 ans, c'est qu'on est devenu un acteur de déminage accrédité. C'est-à-dire qu'on démine les territoires en Colombie, on a des équipes de démineurs qui sont composées de Colombiens et de Colombiennes que l'on forme pour justement apprendre à déminer et puis pouvoir libérer leur territoire.
C'est important que vous le dites aussi parce que la Convention appelait les nations à être solidaires, là, à s'entraider aux besoins. Est-ce que c'est un peu au nom du Canada que vous le faites?
Ah ben, le déminage, non, parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à obtenir de financement du Canada pour du déminage en Colombie. Par contre, l'assistance aux victimes, oui, on a eu un gros projet d'assistance aux victimes qui a été financé par le Canada de 2012 à 2016. Et puis, vous savez, les financements comme ça qui nous viennent des États, ils vont, ils viennent. Hein. De temps en temps, on a des périodes sans financement. Là, c'est une période sans financement, mais j'ai bon espoir que le gouvernement canadien se remobilise pour la Colombie avec Handicap International.
Bon, voilà. Et c'est peut-être une des questions que vous pourrez soulever, même si on célèbre, j'oserais dire, une victoire, notamment du Canada. Mais vous êtes là aussi pour rappeler qu'il y a d'autres besoins là, pour stopper les bombardements.
Oui, il y a énormément de besoins parce que malheureusement, comme vous le dites, avec l'usage des bombardements en zone peuplée actuellement et les crises en Syrie, les crises au Yémen, en Irak, on a une recrudescence du nombre de victimes et ces victimes-là, que ce soit de mines antipersonnelles, de sous-munitions ou d'armes explosives, finalement, elles ont les mêmes besoins. Oui. Elles sont en situation de handicap, elles ont besoin des soins de réadaptation, des soins d'accompagnement psychosociaux, des soins d'insertion socio-économique aussi pour retrouver un boulot. Donc c'est les mêmes besoins et donc le travail est malheureusement pas prêt de se terminer vu la situation du monde actuellement.
Oui, non, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, cette campagne que vous menez nous le rappelle. Il n'y a pas seulement que les gouvernements qui doivent agir ou faire pression. Le public aussi est appelé. Vous proposez d'ailleurs de signer une pétition actuellement. Expliquez-nous ça en quelques instants.
Oui, cette pétition, c'est dans la suite logique de notre combat contre les mines antipersonnelles et les sous-munitions. C'est une pétition qu'on déploie dans plusieurs pays où intervient Handicap International et qui vise à être remise l'année prochaine aux Nations Unies pour demander l'arrêt des bombardements dans les zones peuplées. Donc très rapidement, actuellement, on voit des usages de bombes dans des villes et donc au-delà de faire des blessés, ça détruit aussi les hôpitaux, les écoles, les marchés, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est ce qu'on demande C'est une pétition internationale et pour l'instant, on a recueilli 400 000 signatures. Ce n'est pas des signatures canadiennes, c'est
une signature
internationale. Oui, mondiale. Et l'objectif est d'en recueillir 1 million pour pouvoir les remettre l'année prochaine aux Nations Unies.
Et on vous soutient là-dedans. Rappelons qu'il est possible d'aller signer cette pétition sur petition.handicap-international.ca. Je veux seulement dire aussi que dans la petite page d'à côté, on peut aller voir, continuer de suivre l'action d'Handicap International sur handicap-international.ca/fr. Jérôme Bobin, directeur d'Handicap International Canada, merci beaucoup.
Merci à vous et puis très belle célébration de la Journée des personnes handicapées aussi. Même.
Oui, il faut célébrer nos gains et ces gains-là, c'est grâce à vous, entre autres. Alors, merci encore.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Le ciel est trop noir, qu'une grande toile voile les étoiles. Doucement mon corps s'apaise et s'endort pendant que je rêve au jour qui se lève.
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
Et cette question sur synthèse vocale, vous allez l'entendre souvent. C'est la question du jour, voire de la semaine. Alors, s'il vous plaît, allez-y, répondez sur notre site web canalm.vuesetvoix.com. N'oubliez pas aussi qu'on peut aller sur Facebook, etc. et on peut y aller de nos commentaires et inspirations. Pour demeurer inspiré, c'est très important de développer son potentiel, d'accéder peut-être à l'égalité des chances aux études. Ça, c'est des gros concepts, mais vous les retrouvez souvent quand vous parlez, quand vous vous adressez à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire et même sur un de leurs portails. Très important, aquepsguide.org. On en parle avec la chargée de communication de l'organisme, Marie-Hélène Tanguay. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour la troisième fois cette année.
Ben oui, enfin, on s'est permis de vous rencontrer à plusieurs reprises, comme le plaisir croît avec l'usage. Et vous nous parlez de ce guide, aquepsguide.org. C'est un peu deux fois dire guide, là, mais oui. On se le répète, aquepsguide.org. Allez-y.
Qui est, selon moi, pas assez connu.
Ah oui, bon.
Donc, il existe depuis déjà 2004, il a été créé, et puis ce guide-là est fait justement pour promouvoir les études postsecondaires parce qu'on sait que depuis 10 ans, il y a eu les personnes en situation de handicap vont plus longtemps aux études et c'est plus accessible. Donc, c'est pour cette raison-là que ce guide-là avait été créé à l'époque pour promouvoir que c'est possible et que c'est un droit et qu'il faut prendre ce droit-là et prendre les accommodements et le soutien qui est en place dans les établissements pour s'épanouir.
Oui. Bien, voilà, c'est important que vous le rappeliez. Il y a eu une augmentation, d'ailleurs, des personnes en situation de handicap qui fréquentent les écoles.
Oui.
Est-ce que les gens utilisent souvent les services qui sont à leur disposition, par contre?
De plus en plus, mais je dirais que c'est important de le rappeler parce que souvent, quand on est en situation de handicap, on a souvent trouvé des stratégies compensatoires.
Donc, oui, voilà.
Donc, puis on se dit, ah, ben non, je suis capable. Puis des fois, on s'épuise. Donc, c'est ça aussi que je veux rappeler, que des fois, les ressources sont là, puis on n'est pas obligé de s'épuiser, surtout quand on fait un long cursus, une maîtrise, par exemple. Oui. Ouais. On n'est pas obligé de... On peut demander de l'aide, si on
veut. A souvent le réflexe, en somme, de dire « on va s'arranger ».
C'est ça, effectivement.
Hein? Mais il y a des moyens pour vous organiser mieux.
Oui, effectivement, oui.
Bon. Et ces gens-là là, à qui vous parlez, est-ce que ce sont les mêmes qu'au début là, de la création de votre organisme?
Non, en fait, parce qu'au début, on s'adressait beaucoup à des gens qui avaient... un déficit moteur ou une déficience auditive ou visuelle, mais maintenant, c'est beaucoup plus les troubles d'apprentissage et les problématiques de santé mentale et les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
Ah oui, et même, on peut même appeler ça, il y a un beau petit mot, la clientèle émergente.
Oui, tout à
c'est
fait,
c'est devenu
Benoît,
la clientèle la plus importante des études au postsecondaire.
Oui, tout à fait.
Et donc, ce monde-là, vous leur offrez de l'information pour qu'ils puissent bien profiter, évoluer dans le système d'éducation.
Oui.
Mais quelle information exactement vous leur offrez sur le guide acepsguide.org?
Bien, en fait, c'est pas compliqué. On parle beaucoup d'accessibilité universelle, de défendre ses droits avec des liens utiles. Comme par exemple, vous pouvez retrouver des ressources au niveau de l'aide financière, au niveau expliquer c'est quoi une mesure d'accommodement.
Mm-hmm.
Et puis, vous pouvez aussi retrouver toutes les informations pour avoir accès à un conseiller. T'sais, savoir c'est qui, comment ça fonctionne. Donc, c'est très important d'y aller. Puis, en fait, dernièrement, j'ai fait la mise à jour.
Ah bon! Ben oui. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Tout à fait, là, des conseils. Parce que vous devez savoir qu'à l'ACEPS, on est quand même une petite équipe. C'est pour cette raison-là que ce guide-là, justement, on ne peut pas mettre toute l'énergie qu'on voudrait là-dedans. Donc, aujourd'hui, je demande aux organismes qui ont déjà un lien, si jamais, là, parce qu'il y a l'association des personnes de petite taille, il y a les...
L'association des conseillers en accessibilité, ça c'est très important, l'acquis sèche.
Oui, effectivement. Il y a aussi l'Institut des troubles d'apprentissage ou d'autres organismes là, qui ne me viennent pas en ce moment. Mais je demande à ces organismes-là s'il y a un changement au niveau de vos coordonnées ou au niveau de votre mission, faites-moi en part, appelez-moi, donc, à l'ACEPS, puis ça me fera plaisir de faire les modifications.
L'appel est très clair.
Ouais.
Vous êtes une petite équipe
fort
dynamique, mais vous avez besoin de la collaboration de tous pour continuer à offrir ce guide.
Effectivement.
rappelons d'ailleurs qu'il y a beaucoup de rubriques. Il n'y a pas seulement de l'information, il y a de la référence, mais il y a aussi de l'information très précise sur... les étapes là, qu'on doit faire, puis les programmes qui existent.
Effectivement, parce que compte tenu que l'ACEPS est un organisme à travers le Québec, donc il faut répondre aux besoins d'un étudiant autant à Montréal-Laval que quelqu'un au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple.
Puis, est-ce que ça varie beaucoup? Ça, c'est la question presque éditoriale là, de la capsule. Est-ce que ça varie beaucoup là, d'un endroit à l'autre, les services auxquels on peut avoir accès?
Non, c'est sensiblement pareil.
OK. Bon, bien, c'est heureux, ça, parce qu'on n'entend pas toujours ça en santé ou dans d'autres domaines, mais en éducation, ça va mieux.
Ouais.
Je suis content d'entendre ça. Et les gens, donc, peuvent se rendre non seulement sur le guild, mais vous offrez aussi d'autres canaux pour leur parler ou pour les informer.
Oui, effectivement, je suis très active au niveau de notre page Facebook. Je publie des articles du devoir sur l'éducation, des articles, toutes sortes de trucs inspirants aussi au niveau... Le CRISPECH, qui est un centre de recherche avec qui l'ACEPS travaille, on publie des choses... de eux. Puis si jamais vous avez quelque chose à publier, ben faites-nous en part aussi.
Il faut savoir, Marie-Hélène Tanguay, qui est chargée de communication à l'ACEPS, c'est extrêmement accessible. hein, même que vous, parfois, vous aidez des cas citoyens, même si ce n'est pas votre première mission.
Oui.
Hein, donc, vous êtes une ressource importante. Rappelons que non seulement on peut aller retrouver akeps.org, hein, qui existe de fait, mais oui. votre guide directement pour avoir plus d'informations, akeps, donc je veux l'épeler, je pense, ça vaut la peine,
oui.
A-Q-E-I-P-S, guide, guide, vous savez, mais donc au long, .org,
oui, .org,
c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Marie-Hélène Tanguay.
Merci beaucoup à vous.
Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habit ce dimanche. Il pleut des rires aux éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'air. Beaucoup des bouquets de fleurs et des enfants courent autour du bonheur. Un orchestre fou passe la cinquième. Quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans. Le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là.
Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées?
Ça sera pas long.
Qu'est-ce que cela vous inspire?
Et il y a déjà de l'animation. L'inspiration, ça vient jamais seul. Hein. Il faut échanger en studio. Il y a déjà des gens qui arrivent. Mais au téléphone, il y a Michel Bédard, producteur-animateur de l'émission « Les Capés sur CKIA », qui nous donne des nouvelles de la vieille capitale. Bonjour Michel.
Salut Benoît.
Bon, content de vous retrouver après les élections, après le début de l'hiver qui a déjà montré son nez.
Oui, effectivement, on a eu... en fait, au centre-ville, moi, où je demeure, la neige s'est installée depuis jeudi dernier.
Uh-huh.
Et dans ce qu'on pourrait appeler la périphérie du centre-ville, ça s'est installé depuis déjà depuis quelques semaines déjà. Et lors de ma dernière entretien avec vous, Benoît, on avait parlé du déneigement et mes craintes que ce soit merdique que ce déneigement.
Mm-hmm.
Et bien, malheureusement, mes craintes sont fondées.
Bon, donc, la peur s'est installée pour devenir réalité. Là, il y a de la difficulté à déneiger à Québec, c'est ce que je comprends.
Oui, dans les quartiers un peu plus périphériques. Pour ce qui est de centre-ville, comme il y a très peu de neige encore, ben pour l'instant, ça va. Mais jeudi dernier, il a tombé quand même quelques centimètres de neige. Et puis, on a vu que le déneigement allait être visiblement encore laborieux pour cet hiver.
Hmm.
Encore plusieurs plaintes à venir, selon moi.
Il n'y avait pas eu changement de pratique ou annonce de changement de pratique après l'année dernière?
Oui, en fait, la Ville de Québec a annoncé la semaine dernière que ça serait maintenant un arrondissement en particulier, soit la cité Limoilou, qui s'occuperait de tout le déneigement de la Ville de Québec.
Ah oui.
Est-ce que le fait de centraliser ça dans un arrondissement en particulier va changer quelque chose? j'ai hâte de voir. L'annonce a été faite la semaine dernière. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir, mais visiblement, là, on est au tout début, mais ça semble difficile encore cette année.
Mais là, la question, est-ce que le déneigement, c'est mieux quand c'est centralisé pour l'accessibilité universelle ou c'est mieux que chaque arrondissement s'en occupe?
Bien, votre avis, là. Je pense que c'est plus simple si c'est centralisé, dans la mesure où il y a une place à communiquer. C'est-à-dire que il y a des endroits où c'est mal déneigé, on ne sait pas, est-ce que c'est dans l'arrondissement A, la B, la C, on ne le sait pas. Mm-hmm. Là, ça devient un peu difficile. Tandis que là, maintenant, c'est beaucoup plus central, beaucoup plus simple de faire une plainte de manière efficace.
Et en fait, quand on fait la plainte, comment on procède? Parce que là, il y a des gens de Québec, notamment, qui nous écoutent. Comment on fait pour se plaindre? Là, mettons qu'on se lève un matin et qu'on ne peut juste pas sortir de chez soi.
La façon la plus simple, c'est, si vous avez accès à Internet, c'est de taper dans Google 311.
Mm-hmm.
Et par téléphone, c'est la même chose. 311. Là, vous allez tomber sur une centrale téléphonique qui va prendre votre plainte et tout et qui va l'acheminer au bon département, que ce soit le déneigement ou tout autre problème à la ville.
Ben voilà, faut le rappeler, hein, c'est souvent la bonne porte d'entrée pour se plaindre ou exprimer un besoin comme citoyen d'une municipalité. Le 311, on répète. Je rappelle par ailleurs que on peut vous entendre toutes les semaines sur CKIA. Est-ce que vous parlez de Nash et Tancé aussi?
Non, on n'en a pas encore commencé.
Ah, parce que c'est une primeur.
Oui, tout à fait. En fait, j'attends vraiment que l'hiver s'installe de façon vraiment sérieuse, là, possiblement à partir de l'autre semaine. Parce que nous, cette semaine, ils nous annoncent pas de neige encore, ou très, très peu.
Au centre-ville.
Au centre-ville, à tout point, c'est ça. C'est sûr que je parle pas de la périphérie, où là, il y a déjà la neige qui s'est installée.
Ben, on est content de vous avoir... pas loin de l'appel, non, c'est pas vrai, mais on est content de vous avoir aux aguets comme ça et on continue de vous écouter sur CKIA à Québec. Mais évidemment, après l'émission, s'il vous plaît. Michel Bédard, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Je m'en vais au hasard, je garde tous mes rêves, je m'égare tout entier sur un long chemin sans trêve, poursuivi d'un passé. Se voudrait le mien, emporté par les vents, il n'en reste plus rien. Ya ba 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 bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye, qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye, j'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye, tu n'es pas seul au monde. Je vois les étoiles, ya ba 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 bye 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 bye, qui me couvrent de leur voile. J'entends une voix à la ronde. Tu n'es pas seul au monde. Sur cette route infinie, en rêvant je voyage. Dans des lieux sans amour, je pose mes bagages. Dans cette ville qui m'accueille, ce sont mes derniers pas. Et je cherche le repos, mais ne le trouve pas. Ya ba 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 ba. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 ba. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 ba. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ba. Tu n'es pas seul au monde. Il ne reste qu'un hier et demain a disparu. Tant d'espoir m'abandonne et je ne rêve plus. Le jour où la moisson fleurira le désert, je pourrai retrouver mon soleil et la mer. Ya ba 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 ba. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ba. Tu n'es pas seul au monde. Ya ba 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 ba. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 ba. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 ba. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 ba. Tu n'es pas seul au monde.
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
Je ne sais pas si vous êtes inspiré, mais il y a beaucoup de gens à table pour vous parler de la réalité, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il manque que vous, hein, vous avez qu'à faire vos commentaires sur la page canalm.vuezvoix.com ou sur Facebook. Et vous le savez certainement, cette année, comme les autres, c'est le 3 décembre qu'on tient la Journée internationale des personnes handicapées de l'ONU. Et cette année, on a opté pour une question, je ne sais pas si ça vous inspire, mais la question c'est quelle transformation durable pour une société plus inclusive? Alors, je vais vous poser la question à tous et toutes qui êtes ici. On a avec nous au téléphone, en plein transport adapté, Laurent Morissette du Raplic. Bonjour Laurent.
Allô, Benoît.
Bon, il semble que le transport soit légèrement tard.
Ben, en fait, j'ai pris le réseau de surface.
Ah!
J'ai eu 3 autobus sur 3 non fonctionnels. Le 4e, il fonctionnait. Moi, j'ai pris la ligne 24, donc c'est une des lignes majeures de Montréal. Puis, je peux toujours pas comprendre pourquoi les lignes majeures ne sont pas plus fonctionnel que ça, là.
Bon, ben votre sondage est déjà fait. 3 en 3, ça marchait pas. Et ça nous rappelle que le transport, c'est souvent un thème important. Est-ce que vous trouvez que ça a bien évolué avec le temps, le transport adapté à Montréal, par exemple?
Ben, il y a certaines évolutions, évidemment. Excusez pour le bruit, là, je suis dehors. Mais il y a encore beaucoup de choses. On est souvent pris en otage des contraintes, des paramètres qu'on ne contrôle pas vraiment. Puis aussi pour la question du confort aussi, c'est une chose importante aussi, mais on est encore pris, il y a beaucoup d'évolution, mais comme je dis, on est encore pris en otage un petit peu. C'est sûr que le terme est un peu fort peut-être, mais c'est comme ça que moi je le sens personnellement. Fait que j'imagine que le reste des éducateurs ont un peu ce même... cette bonne perception.
Oui, je suis persuadé que vous n'êtes pas le seul à le constater. Laurent Morissette, je rappelle que vous êtes président par intérim du Raplic. Vous défendez les personnes en situation d'handicap. Est-ce que ça va?
Oui, ça va, ça va.
OK, excusez. Donc, vous défendez les personnes en situation de handicap, mais souvent les personnes qui ont une déficience motrice. Avec nous, d'autres personnes qui interviennent, qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, notamment Carole Zambiello, qui est spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Je veux juste rappeler que non seulement vous enseignez aux personnes non-voyantes à se déplacer en toute sécurité, mais vous intervenez souvent aussi pour l'accessibilité sur le plan municipal. Alors, ben bonjour, Carole Zambiello.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Au téléphone, toujours pour les droits des personnes aveugles, Yvan Provencher du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Yvan.
Bonjour Benoît.
Alors, on a décidé de vous inviter ainsi que votre collègue Carole Zambiello. Je sais que vous travaillez souvent ensemble.
Exact.
Bon, alors on entendra plus tard ce que vous pensez de cette journée de l'avancement des droits. Est à table avec nous aussi Ghislaine Goulet, qui est coordonnatrice du comité régional des associations pour la déficience intellectuelle, le CRADI. Bonjour Ghislaine.
Bonjour Benoît.
Alors, vous vous ajoutez parce que souvent, les personnes en situation de handicap, on pense à elles comme des personnes qui ont des déficiences motrices, un peu moins comme des personnes aveugles, mais très rarement comme une personne qui présente une déficience intellectuelle.
Effectivement, les personnes, comme c'est moins visible, sont souvent oubliées.
Ouais.
Sont oubliées sur tous les paliers gouvernementaux, d'ailleurs.
Ouais.
Et je voudrais juste ajouter que nous représentons aussi les associations pour les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme.
Ouais.
Puis eux aussi, malgré le fait que le gouvernement provincial s'attarde un peu plus aux enfants,
ouais,
mais que dès qu'ils passent à l'âge adulte, sont oubliés.
Mais ça, c'est vraiment un enjeu important, surtout chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais je pense que de manière générale, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est difficile. On sent beaucoup d'attention pour les jeunes personnes en situation de handicap, hein? Mais aussitôt qu'on passe à certains âges, ça devient compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde autour.
Moi, je dirais que oui, effectivement. Quand on est jeune, on a une équipe multidisciplinaire qui est autour de nous pour nous évaluer notre évolution.
Mm-hmm.
Mais dès qu'on passe à l'âge adulte, on n'a plus grand-chose. C'est comme la méthode Lean, pas mal. C'est des services à la pièce si vraiment on a besoin. Puis il n'y a pas vraiment de suivi. Je veux dire, on pourrait être en train de tomber dans la rue puis on n'aurait pas de physiatre, pas rien. Il faudrait les concerter à la pièce, comme je dis. Donc oui, c'est un fait que vous soulevez là. C'est un fait avéré.
Et Mme Zambiello avait envie d'intervenir. Yvan Provencher aussi. Mme Zambiello, d'abord.
Bien, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que peut-être dans la déficience motrice, c'est comme ça, mais au niveau de la déficience visuelle, c'est un peu moins comme ça.
Ah oui?
Peut-être parce qu'on est moins au niveau de la déficience visuelle, mais j'ai pas l'impression que parce que tu es un adulte, tu es laissé de côté. Ça, j'ai jamais vu ça, parce qu'on a des programmes pour le travail, pour le maintien au travail et tout ça. Et je ne crois pas que...
Il n'y a pas de distinction.
Non, parce que c'est de 0 à 100 ans, ben, et plus nous, avec lesquels on intervient, alors...
Oui, bien, avouons que la baisse vision vient assez facilement avec l'âge.
Oui, aussi.
Quand même. Yvan Provencher, est-ce que Carole Zambiello de l'Institut Nazareth Louis Braille dit vous parle?
Moi aussi, je nuancerais un peu. Puis là, on faudrait parler, si on voulait aller plus loin, il faudrait parler avec des parents. Mais j'ai l'impression qu'au scolaire, la possibilité pour les étudiants au niveau, je dirais, secondaire et élémentaire, là, moi, je questionnerais ça. Je serais curieux de savoir si ça a avancé à ce point-là. Parce que les étudiants, souvent, on parlait justement de ça avec des membres ici la semaine dernière, notamment sur l'enseignement du braille.
Ouais.
Souvent, le braille est considéré comme quelque chose pour pallier, alors que, en fait, c'est un mode d'alphabétisation. C'est une façon d'accéder à la culture et à la connaissance. Et je suis pas certain qu'au niveau scolaire, les élèves sont bien desservis sur ce plan-là. Alors, je ne suis pas sûr que c'est si vrai que ça, qu'une fois qu'on a 18 ans et plus, qu'on est laissé pour compte, là, je nuancerais moi aussi là-dessus. Non?
Bon, très bien. Il faudrait faire une avancée des chevaux dans les différentes écuries, là, puis montrer c'est quoi pour chacun l'avancement des droits. Mais j'aurais envie, avant qu'on se concentre peut-être un peu plus sur, entre autres, ce que vous vivez, les personnes aveugles, eu égard à l'avancement des droits, j'aurais envie de vous poser la question. Bon, c'est la journée internationale, ou c'était la journée internationale des personnes handicapées. C'est quoi l'enjeu le plus important sur lequel on devrait se concentrer maintenant, brièvement pour chacun, chacune d'entre vous? Ghislaine Goulet, du CRADI.
L'enjeu principal, puis je vais essayer d'être brève, c'est l'accès aux services. Mm-hmm. Autant l'accès aux services au niveau de la petite enfance pour la stimulation précoce. Oui, il y a eu des argents ajoutés au niveau des programmes pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Cependant, pour desservir plus de personnes, certains centres de réadaptation ont décidé, au lieu de donner le 40 heures, de donner 20 heures, malgré que les études disent qu'il faudrait une période de 40 heures. Donc ça, pour les enfants. Pour ce qui est des adultes, mais c'est à la fin de la scolarisation, à 21 ans, c'est le vide.
Ah oui,
c'est les murs, c'est les listes d'attente. Donc, autant pour les personnes qui veulent avoir accès à des services pour apprendre les apprentissages au travail, autant que les personnes qui ont besoin de centres d'activité de jour.
Donc, c'est ça. Et les personnes qui ont plus de 21 ans, je pense que c'est pas seulement les personnes qui présentent une déni... lapsus?
Un déni droit, oui.
Un déni droit, oui, c'est ça. Une déficience intellectuelle. Donc, ils vivent ça, hein, cette rupture dans la continuité des services. Je pense que c'est le cas aussi pour les personnes qui présentent une déficience motrice. Vous en avez un peu parlé tantôt, Laurent Morissette, en disant qu'il y avait peut-être pas toutes les ressources comme quand on est plus jeune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous, ça sera un enjeu, l'accès aux services?
Je suis vraiment d'accord que un des enjeux fondamentaux, c'est vraiment, oui, l'accès aux services. Mais je mettrais aussi un enfant sur l'habitation, l'accès à l'habitation aussi comme on sait, c'est qu'on a demandé en coopération avec Execo, justement, on a participé à une demande pour avoir, comme par exemple, infologie.
Pour infologie, oui.
Accessible. Donc, c'est une des priorités. Oui, on pourrait penser que pour le rappeler, que la priorité ultime, c'est vraiment le transport. Évidemment, c'est une des priorités fondatrices de notre action, mais pour aussi être capable d'habiter à des endroits assez facilement, puis à coût raisonnable aussi, parce que louer un logement comme ça, qui n'est pas accessible ou qui est moyennement accessible, ça peut coûter les yeux de la tête. Là, donc,
oui, bien sûr. Et donc, vous l'exprimez assez clairement, c'est bien de pouvoir se déplacer, c'est pas encore facile, mais il faut au moins résider quelque part de manière sécuritaire, accessible, avant de pouvoir se déplacer. Enfin,
ça va de toi, parce que, bon, tu peux pas penser ta vie dans les autobus, là, je veux dire, il faut quand même être capable de dormir quelque part.
Alors, oui, c'est ça.
Pour nous, c'est fondamental aussi.
On s'entend là-dessus, c'est certainement un droit fondamental. On se retrouve après cet incident musical. Je vais essayer de voir avec vous si la perception a changé et si les communications aussi, c'est important. Quand on pense aux droits des personnes en situation de handicap?
Afternoon delight. I stand on a town, can't be light.
question. Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
L'accès aux services, l'inclusion, la perception, tout ça, ce sont des choses qui nous inspirent parce que ça, c'est censé être dans les composantes normales de la vie. Et avec nous, on a Laurent Morissette du RAPLIC, Carole Zambiello de l'Institut Nazareth et Louis Braille, Yvon Provencher du RAM pour défendre les droits des personnes aveugles en BLIOP et Ghislaine Goulet, coordonnatrice du CRADI. Vous êtes avec nous, Laurent Morissette. Est-ce que vous avez réussi à trouver un endroit calme malgré le manque de transport?
Ben, en fait, je suis rentré dans le métro Sherbrooke. Ça devrait être moins pire.
Bon. Et donc, comme vous avez réussi à vous mettre un peu au chaud, je vous poserai la question. L'inclusion, est-ce que c'est possible aujourd'hui, même si on célèbre là, l'avancement des droits des personnes handicapées?
L'inclusion, c'est possible. La question, c'est est-ce qu'elle est réellement voulue? Ça, c'est une autre chose.
Parce que
pour moi, il y a une nuance à faire, c'est que il y a beaucoup de vieux qui disent oui, il faut avoir des stations de métro, il faut avoir. Mais j'ai l'impression qu'il manque de vision à long terme.
Oui.
Je veux dire, parce que si je regarde, par exemple, j'ai vu une vidéo ce matin sur Facebook de la station, des stations de métro sur Paris, là.
Mm-hmm.
Ils sont à peine à 3% d'accessibilité. Bon, ici, on peut s'enorgueillir, c'est un petit peu plus, là, c'est. Je pense que c'est quoi, là? C'est 10% maintenant qu'on a, là?
On approche du 10, oui.
Déjà mieux, mais qu'est-ce que les gens du métro de Paris disaient? Ben, c'est que il n'y a pas de raison pourquoi la mise en activité à Paris n'est pas plus grande que ça, parce qu'il y a beaucoup de stations qui sont beaucoup moins profondes que celles de Londres, par exemple. Donc, c'est vraiment une problématique globale, mondiale, que si vous n'êtes pas conscient. Si vous n'êtes pas, confronté à la problématique de l'accessibilité universelle, ben
vous la voyez pas, sans jeu de mots, là. Vous la comprenez pas, ouais.
Il y a aussi une chose importante à dire, c'est que, comme tu disais dans la vidéo, c'est que quand il y a eu les Jeux olympiques, les Jeux olympiques de Londres, récemment, il y a eu aussi les Jeux paralympiques, donc ça a donné une poussée importante.
Mm-hmm.
Alors qu'ici, à Montréal, à l'époque de 1965, quand il y a eu les Jeux, les Jeux paralympiques étaient ailleurs.
Oui, mais puis, les personnes en situation de handicap n'avaient pas encore de droits civils, aucun en fait. Mais on parle souvent de l'avancement des droits pour tous les groupes. On a avec nous aussi Yvon Provencher. Yvon, est-ce que l'inclusion va mieux pour les personnes aveugles, amblyopes, qui ont aussi une basse vision au Québec?
Ça, c'est une question. Pour le Québec, je ne pourrais pas parler là, parce que je...
Mais mettons pour Montréal.
l'inclusion, c'est quelque chose d'extrêmement large. Alors,
oui.
De dire qu'on est plus inclus aujourd'hui que v'là 10 ans, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain, moi, que la perception des personnes, je peux parler des personnes aveugles, malvoyantes, mais c'est peut-être vrai aussi pour l'ensemble des personnes qui ont des limitations. Je suis pas certain que ça avance tant que ça. Je pense que c'est quelque chose qui est long à obtenir. Et bien sûr, on peut souhaiter l'amélioration de la législation au Québec. Là, c'est un peu mou. On peut dire ça. Je pense qu'on...
Beaucoup de gens pointent la loi comme étant le problème.
Mais ceci dit, les changements d'attitude, ça, à mon avis, ça ne se légifère pas. Alors, on a beau avoir toutes les obligations légales qu'on voudra mettre, pour être vraiment inclus, il faut aussi que l'inclusion passe par les attitudes dans la société en général. Et ce bout-là, je pense que les progrès se font, mais très, très lentement. Des fois, c'est un peu décourageant, là, mais je pense qu'on avance, mais c'est très, très long. Les attitudes sont très longues à changer.
Et
oui.
Pour que ces attitudes-là ne soient plus discriminatoires, parce que c'est ça que vous sous-entendez, qu'est-ce qu'il faut améliorer là, au niveau de l'accessibilité? Je sais que vous avez souvent des enjeux au niveau des communications, notamment. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens-là?
Bien, comme je disais, on peut toujours émettre des obligations légales, mais ça, après, c'est le comment on fait ça. Et c'est là où le travail se fait souvent de un à un. En aménagement, vous demandez tout à l'heure, c'était quoi des enjeux? Bien, un des enjeux très, très importants pour les personnes qui ont une déficience visuelle, mais c'est vrai pour d'autres, là, c'est la question des déplacements. Alors, les déplacements, ça passe par des aménagements qui sont universellement accessibles. Une fois qu'on a dit qu'on veut ça, après ça, il faut expliquer comment on fait ça. Et là, c'est du travail d'éducation. Et là, ça se fait souvent de un à un. Ça se fait par des contacts. Ça se fait par « j'explique la situation ». Madame Zabiello fait la même chose. Et c'est souvent par là qu'on fait des changements, mais c'est des changements à petite échelle.
Oui.
Alors, parce que la législation, ça peut imposer des obligations, mais après, il faut passer par... Une fois qu'on a dit qu'on devait faire quelque chose, il faut après trouver les façons de le faire. Et ça passe beaucoup par la sensibilisation, l'éducation, la formation.
Mais même la négociation.
Il y aurait des bouts à faire sur la formation, mais il va rester un travail de sensibilisation à faire quand même.
Madame Zambiello, est-ce que vous pensez aussi qu'on doit faire la pédagogie, qu'on est encore rendu là?
Oui. Moi, lorsque je travaille avec les villes ou avec les instances gouvernementales et qu'on parle d'accessibilité universelle, les gens pensent mobilité réduite. Et moi, l'accessibilité universelle, c'est pas ça la définition. La définition, c'est pour tous. OK? Puis souvent, je ressors la définition pour qu'ils comprennent. Alors, si moi, je propose un aménagement, comme Yvon disait, OK, pour... n'importe quoi. Je sais que je fais quelque chose qui va aider beaucoup de monde. Je vais aider la personne âgée qui veut traverser une intersection. Je vais aider peut-être quelqu'un qui a une poussette, OK, puis que le bateau pavé va être mieux. Je vais aider celui qui livre, le livreur. Tu sais, c'est à ça qu'il faut penser, OK? Puis quand on fait ces choses-là, c'est à tout le monde qu'il faut penser, puis il faut que ça soit clair, que ça soit uniforme, que ça soit... fluide. Et c'est ça qui est difficile actuellement.
Il faut convaincre, dans le fond, les élus, les décideurs, à penser à tout ce monde-là,
oui.
Sans oublier les personnes qui ont une déficience intellectuelle, Ghislaine Goulet.
Oui, je veux faire des pouces sur ce que vous venez de dire, parce que, le Crédit a beaucoup travaillé avec la Ville de Montréal afin de rendre sa plateforme Internet accessible. Juste avant les élections de Montréal, j'ai tenté avec une personne qui présente une déficience intellectuelle de dire, bon, est-ce que tu peux aller sur le site de Montréal et aller chercher l'information concernant, simplifié, concernant les prochaines élections? Et la personne m'a dit, j'ai pris deux heures et je n'ai jamais trouvé. Quand moi j'ai été sur le site, oui, tout a été écrit en langage simple, mais pour avoir accès, c'est un petit logo en bas de la page d'introduction.
Complètement invisible.
Pratiquement invisible, qui s'appelle Accès simple. Et si je vois ce logo-là, est-ce que vous et moi, vous ou la population va dire, ah, c'est le langage simplifié, c'est donc accessible pour les gens qui ont des problèmes de littératie aussi.
Ouais.
Alors, quand on parle de l'accessibilité universelle, c'est pour tous, mais nous aussi, c'est ce qu'on dit, c'est pour tous.
Et ça inclut l'information. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des radios, puis vous et voix, pour que l'information se rende à tous et toutes, peu importe si on voit ou pas. On nous reste encore assez peu de temps. Évidemment, les enjeux sont incroyables. J'oserais vous poser la question en terminant. Est-ce que vous croyez toujours dans la loi cadre qui devrait arriver? Parce qu'on a parlé des attitudes, là, mais les instruments législatifs sont importants. Je suis sûr que Laurent Morissette pourrait nous le rappeler. Est-ce que vous y croyez qu'au niveau canadien, la loi pourrait changer les choses, au-delà des attitudes? Non, mais allez-y, si vous êtes beaucoup à y aller. Mais Carole Zambiello voulait ajouter quelque chose, peut-être en quelques mots, puis on va passer la parole à Laurent aussi.
Bien, moi, je voulais dire qu'aux États-Unis, il y a une loi depuis, je pense, c'est 1994.
94, oui.
Et lorsqu'on va dans les villes, bien, c'est accessible. Tu sais, il y a toujours des tuiles podotactiles. Les ascenseurs sont aménagés. En tout cas, toutes les choses là, qu'il faut mettre, la loi est écrite et les gens doivent la suivre.
Donc, c'est un bon départ. Ça donne un vrai coup pour convaincre les gens d'aménager autrement, en tout cas. Laurent Morissette, on doit partir bientôt. Mais écoutez, en un mot, est-ce que vous y croyez ou non à la loi canadienne qui s'en vient?
J'aimerais bien y croire. Puis honnêtement, je pense que... J'ai pas lu le cadre, tout ça, mais je pense que si on réussit à faire appliquer cette loi-là...
Ça devrait être un bon début.
À toutes les provinces, mais sans permettre aux provinces de passer outre cette loi, c'est un bon début.
Bon, très bien. Laurent Morissette du Raplic, merci beaucoup. Carole Zambiello de l'Institut Nazareth et Louis Braille, merci. Yvon Provencher, Durham, merci encore. Et Ghislaine Goulet, merci. Alors, on dit ensemble...
Merci, Benoît.
Merci, espérons une vraie reconnaissance des droits pour tous et toutes.
Espoir. Tout à fait.
Voilà.
Espoir, oui.
L'espoir.
Vous écoutez Accès libre.
C'est quand on y pense, un fantôme qui danse, quand valse la poussière. L'air, une fraction de seconde, quand les yeux de ma blonde battent des paupières. C'est même quand il fait gris, une mélodie qui reste dans la tête. L'air, d'après ce que j'en comprends, c'est un concert qu'on n'écoute pas souvent.
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
Et en continuant de se poser cette question, on va s'arrêter quelques moments pour entendre un livre produit par Vues et Voix. On se demande souvent, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent? Eh bien, il y a un livre qui nous permet cette étonnante excursion dans la tête de Raphaël Aymon, qui parle de rien de moins que sa vision de la politique. Entendons ensemble le quatrième de couverture du titre « La politique vue de haut de mes 12 ans » de Raphaël Aymon.
Même s'il lui arrive souvent de s'amuser avec ses compagnons et cousins, Raphaël fait partie de cette espèce rare qui vit entre deux couvertures de livres. Il a appris à lire par lui-même, dévore des ouvrages d'histoire et de géopolitique et surtout retient tout ce qu'il lit et voit. Quand un éditeur lui promet de publier ses idées sur la politique, il rétorque sur le champ « Est-ce que ce livre pourrait me nuire si un jour je me présentais en politique ?» Car ce jeune a une idée très précise de ce qu'il veut faire plus tard, devenir un politicien. Étonnamment, il prend déjà position sur des enjeux importants tels la souveraineté du Québec, le système électoral canadien, l'immigration, la santé, la défense nationale et même les accommodements raisonnables. Cet ouvrage nous invite à une sorte d'expédition dans l'esprit d'un jeune qui tient à son pays, le Canada, et qui est en mesure de nous expliquer pourquoi avec un aplomb impressionnant. Je m'appelle Raphaël et je suis né à Chicoutimi en décembre 2003. J'aime pratiquer des sports avec mon jeune frère tels que la natation et le ski alpin. Nous partageons également de belles discussions sur plusieurs sujets. Depuis toujours, je suis très curieux et ouvert à l'apprentissage. Dès l'âge de 8 ans, j'ai été interpellé par la politique, un domaine qui me passionne et que j'apprivoise un peu plus chaque jour. Dans ce livre, je vous invite, du haut de mes 12 ans, à découvrir ma vision de cet univers complexe mais fascinant.
On se donne encore davantage le goût de ce livre, qui a été aussi controversé, en attendant le prologue de ce livre qui s'intitule « La politique vue du haut de mes 12 ans » de Raphaël Aymon, publié par les éditions GCL, produit en version audio par Vues et Voix.
Tout comme Brian Mulroney au milieu de son adolescence, le Chicoutimien Raphaël Aymon, 12 ans, rêve de devenir premier ministre du Canada. Il confie ce projet au lecteur dans « La politique vue d'en haut de mes 12 ans », un document unique dans l'histoire du monde parlementaire que JCL lance parmi les nouveautés de la rentrée littéraire 2016. Fils d'enseignant plutôt indifférent à la mouvance politique, il a plongé très tôt son intelligence curieuse dans un examen étonnamment étendu de l'organisation du pouvoir dans les sociétés contemporaines et plus attentivement dans celles qui composent le Canada des deux solitudes. Inscrit au programme d'éducation internationale de niveau secondaire, ses lecteurs préférés portent évidemment sur l'exercice du pouvoir à travers l'histoire du monde. Sa connaissance des dirigeants politiques canadiens, et même au-delà, est impressionnante. Ce sont ses principes, ses convictions et un meilleur partage des richesses qui guident ses préférences. Dans l'immédiat, Raphaël opte pour Québec solidaire, à cause de son projet éco-socialiste et féministe. Ce qui paraît contradictoire parce qu'il s'agit d'une formation souverainiste. « Non », s'explique-t-il en prétendant que son parti ne fera jamais l'indépendance parce que plus de 50% de ses adhérents sont fédéralistes selon les sondages. Notre jeune politicien ne craint pas de s'exprimer sur tous les partis et courants politiques. S'il est le reflet de la génération qui sera aux commandes de l'État canadien et de ses satellites provinciaux au cours des prochaines décennies, prévoyez la disparition du Parti québécois et du Bloc. Car les votants de demain rejetteront, prédit-il, l'idée d'un Québec indépendant qui errerait sur la scène internationale et croulerait sous le poids de la dette croissante. Dès qu'il entrera dans l'arène politique, Raphaël Aymon prônera, sur toutes les tribunes, l'urgente nécessité de protéger l'environnement et de chasser la pauvreté. L'éducation demeure le seul moyen d'atteindre ces deux objectifs ultimes. Voilà pourquoi son ministre doit être le choix de l'Assemblée nationale et non de la partisanerie. Sa pensée sur les chefs politiques d'aujourd'hui est aussi originale qu'étonnante. Sur Justin Trudeau et Philippe Couillard, notamment, à qui il adresse, au terme de ses réflexions, une lettre personnelle. Retenez le nom du plus jeune écrivain de l'épopée, JCL. Il ira loin, si les contraintes de la réalité quotidienne du pouvoir n'altèrent pas le bel idéal qui anime ces jeunes années. Bertrand Tremblay, journaliste.
Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Y'a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. quand j'ai besoin de croire. Tant de douceur et de sourire, tant de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, offres-tu encore cette façon de me regarder? Mais après, diras-tu encore ces choses qui me font chavirer? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu à moi? J'ai peur tout simplement que de nous deux tu sois perdante et un beau jour te retrouver toute seule à force de trop m'aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours cette façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces choses qui me font chavirer. Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu à moi? Ce soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi?
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
Et vous continuez à répondre sur les réseaux sociaux ou même sur la page de canalm.vusetvoix.com. D'ici là, en fait, on s'adresse à une actrice très importante du milieu des personnes en situation de handicap qui a la tâche délicate, mais heureuse, de passer du statut d'activiste reconnu partout au Canada au statut, disons, de l'accès au pouvoir, on va dire ça comme ça. Vous allez comprendre qu'on annonce la venue de Laurence Parent, nouvelle nommée représentante des usagers et usagères du transport adapté au conseil d'administration de cette importante administration du transport collectif, la STM. Bonjour Laurence.
Bonjour Benoît.
Très content que vous soyez avec nous, puis surtout que vous soyez nommée.
Moi aussi, je suis contente.
Oui, bien on sent que vous le faites avec un bel élan, vous êtes interpellé par la nouvelle administration, mais en tout cas, ça, c'est mes perceptions. Pour quelle raison vous avez décidé, vous avez posé votre candidature pour être représentante comme ça au conseil d'administration de la STM?
Mais effectivement, c'est vraiment ça qui s'est passé, là, pour être honnête. Bon, il y a eu l'élection de Valérie Plante le 5 novembre, mm-hmm. Il y a eu toute cette énergie-là qui a emballé beaucoup de gens et j'en faisais partie. Mm. Donc, un matin, sincèrement, je me suis levée. Puis là, je me suis dit, peut-être, OK. Je savais que Marie Turcotte quittait ce poste-là, donc il allait avoir une nouvelle nomination. Donc, c'est comme si j'ai eu une illumination, je sais pas. Tu sais, vraiment, je me suis levée, je me suis dit, OK, peut-être ça peut être intéressant. On va parler beaucoup de mobilité dans les 4 prochaines années. c'est super important.
Oui, bien rappelons d'ailleurs que c'est ça, c'est votre vrai dada, là. Les gens ne savent pas, mais vous complétez actuellement un doctorat sur la mobilité à Montréal, puis même l'identité au travers de tout ça.
Mm-hmm.
Pourquoi vous intéressez à la mobilité, Laurence Parent?
Ben, je pense que c'est parce que je suis arrivée à Montréal, j'avais 17 ans. Puis vraiment, la première journée, là, je suis arrivée, puis je peux pas prendre le métro. J'essaie de prendre l'autobus, c'est difficile. Je suis arrivée en même temps qu'un ami, mon meilleur ami, qui lui n'est pas en fauteuil roulant, qui n'a pas de handicap. Donc, rapidement, j'ai vu la différence.
Ouais.
Lui avait accès à un système de transport en commun, pas moi.
Ouais.
C'est là que j'ai découvert le transport adapté. C'est tous les problèmes rattachés. Puis également, je suis une fille qui aime bouger, qui aime se déplacer, les voyages et tout ça. Et me déplacer dans la ville en fauteuil roulant aussi, j'aime ça. Donc, tous les aspects de la mobilité, dans un certain sens, m'interpellent. Les côtés positifs, également les côtés négatifs. Puis ma passion pour la politique et tout ça, tout ça s'est rejoint.
Oui, parce que vous avez tout fait ça, là. Vous avez étudié en Sciences Po, en études critiques du handicap, vous avez voyagé.
Mm-hmm.
Je pense que vous avez beaucoup aimé New York aussi, puis d'autres villes.
Oui, en termes d'accessibilité, New York n'est pas tant l'exemple aux États-Unis, là, mais des grandes villes, la majorité même en Europe. Hein.
Ouais.
Je suis allée en Europe il y a 10 ans, puis les transports dans plusieurs villes, je pouvais me déplacer tellement plus facilement. Là. Donc, mes voyages m'ont beaucoup inspiré, ça, c'est certain.
Puis, est-ce que ça vous aiderait à mieux comprendre? Est-ce qu'on pourrait un jour se comparer à d'autres villes européennes, par exemple, pour la mobilité des personnes en situation de handicap? Pensez-vous que c'est possible?
Bien, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut y croire.
Oui.
Je pense qu'on est sur la bonne voie aussi. Tu sais, on ne se le cachera pas, il y a eu un énorme retard qui s'est accumulé à Montréal.
Oui.
Quand on se compare actuellement, c'est pas super joyeux. Je pense qu'on ne peut pas se le cacher, mais on est sur la bonne direction. Il y a plein de projets. Si on parle de l'importance de la mobilité, inévitablement, l'accessibilité, ça vient avec. Là,
ouais.
Je veux dire, même si c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance. Je pense que maintenant, ça fait de plus en plus partie. Mais en fait, c'est une priorité.
Oui, même on aménage en pensant à la mobilité, là, parce que les gens, ils restent pas chez eux. Ils sont toujours en mouvement, là, normalement. Bon, évidemment, je dois vous en parler, Laurence Parent, vous êtes une activiste d'abord et avant tout. Vous avez cofondé le RAPLIC, vous avez été dans la gang d'Accessibilize Montréal qui avait le transport au cœur et un peu de rage aussi. Et vous avez cofondé avec Marie-Ève Veilleux le groupe qui fait beaucoup jaser, qui parle souvent des problèmes en transport adapté, les problèmes de la STM, c'est-à-dire le groupe Transport Mésadapté. Comment vous allez faire pour concilier cette voix d'activiste-là puis maintenant la voix d'administratrice à la STM?
Bien, tout d'abord, c'est ça. Je suis effectivement, tout le parcours activiste, mais je fais également de la recherche. Hein.
Ouais.
C'est ce qu'on oublie beaucoup aussi. Là. Donc, je suis également une fille qui réfléchit beaucoup, qui prend le recul, etc. Donc, j'ai déjà ça en moi aussi. Je pense que c'est une force pour moi, tout le travail que j'ai fait en tant qu'activiste, parce que la colère... les frustrations, je les comprends.
Ouais.
Je les comprends, puis j'espère vraiment pouvoir garder là, cette compréhension-là. Ça fait partie de moi.
Ouais.
Je pense que c'est une force, tu sais, de pouvoir... c'est ça, de l'avoir. Je pense que c'est positif, moi, sincèrement. J'espère que les gens vont continuer de militer comme ils militent déjà.
Ouais.
Puis c'est une force,
ouais.
En fait.
Mais il faut accepter qu'il vient de la colère aussi avec ces inaccès-là. Puis vous êtes capable d'en prendre, donc.
Ben oui, puis je veux dire, quand j'étais au RAPLIC ou dans d'autres situations, je me suis fait critiquer comme étant trop radicale.
Ouais.
Donc là, je vais peut-être me faire critiquer comme ne l'étant pas assez. Bon, j'ai déjà de l'expérience dans la critique, ça va aller.
C'est une compétence transversale, c'est ça que vous me dites. OK. Mais c'est quoi exactement votre mandat pour qu'on comprenne ce que vous allez faire au conseil d'administration de la STM, Laurence Parent?
Mais en fait, j'ai le poste de représentante des usagers du transport adapté, mais je suis avant tout membre du conseil d'administration.
Okay.
Donc, au même titre que les autres membres là, autour de la table. Donc, c'est vraiment de veiller à ce que la STM respecte les engagements qu'elle a pris, donc les plans de développement, plans politiques d'accessibilité universelle notamment, mais vraiment pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie là, pour développer dans le fond des transports collectifs les plus accessibles.
Au monde?
Et inclusifs. Ben,
on espère.
Au monde, je ne sais pas si c'est pas écrit dans le plan, ça. Mais ça, c'est le plan secret. On rêve tous à ça, c'est évident.
Oui. Mais ça sera quoi votre première bataille comme membre? Parce que je suis sûr que vous êtes membre du conseil d'administration, mais vous êtes aussi là, pour les personnes en situation de handicap qui utilisent, qui sont usagers, usagères. C'est quoi votre première bataille comme membre du conseil?
Bien, c'est un peu dur à dire à l'heure où on se parle, hein, ouais. Parce qu'on vient juste, ça vient juste de commencer.
Oui, c'est vrai, vous commencez cette semaine.
Oui, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, sincèrement, un peu difficile de répondre, mais il y a plein de projets qui s'en viennent au niveau de la mobilité, notamment, vous savez, à cause de tous les engagements qui ont été pris par la nouvelle mairesse. Donc, ouais. Ça va être de s'assurer que ces projets-là ben, incluent l'accessibilité universelle. Et puis, ben, il y a plein de défis, hein, tu sais, le financement du transport adapté. Donc, tout, je ne pourrais pas en nommer juste un, mais ouais. Sincèrement, c'est de m'approprier une panoplie de dossiers. Je dirais que c'est un peu ça dans quoi je suis actuellement.
Mais on sait
là.
Que vous êtes studieuse. Non, ça, c'est sûr, cet aspect-là, ça va bien fonctionner. Puis, je ne vous demande pas tout de suite ce que vous voyez dans 4 ans, je conclurai cette rencontre avec vous en vous demandant comment vous allez accueillir les demandes, les besoins des personnes usagères, parce que vous êtes capable d'accepter qu'ils sont en colère, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire exactement, concrètement, pour rester connecté sur ce mouvement, sur les personnes?
Mm-hmm. Ben, en fait, j'ai plein d'amis.
Ouais.
Proches de moi qui utilisent le métro, les autobus, le transport adapté.
Ben,
donc,
comme vous, donc.
Donc, moi-même, tu sais, c'est ça, moi-même, je l'utilise autant que possible, comme là, je suis venue en métro,
ouais.
Parce qu'il y avait un message sur Internet qui disait que l'ascenseur à Jean Talon était brisé, mais je me doutais bien qu'il ne l'était pas vraiment. Donc, j'ai pris le métro, j'ai vu que l'ascenseur fonctionnait, je suis allée parler aux changeurs, donc des choses comme
déjà
ça.
Déjà la première tâche de représentante des usagers.
C'est ça, puis au conseil d'administration, mais c'est de poser le plus de questions possibles sur différents dossiers, mais c'est ça, c'est de prendre ma place, là.
C'est sûr que vous avez un travail à faire pour ça, mais... Comment les gens prennent contact directement avec vous? Est-ce que c'est possible?
Ben, les gens peuvent me retrouver notamment sur Facebook, oui. Également un courriel, un nouveau courriel à la STM,
bon.
Qui est laurence.parent@stm.info.
Bien, alors on invite les gens à vous communiquer, mais j'ajouterais quelque chose, Madame Laurence Parent. Je pense qu'on doit vous féliciter, vous remercier pour avoir été une activiste si nécessaire. Et on vous surveille, on est content que vous soyez là. Et enfin, j'ose me commettre comme ça parce qu'on parle souvent du pouvoir pris par des personnes qui seraient militantes. Je pense que vous êtes un exemple très clair de ça. Alors, bravo puis merci d'être encore là. Et Laurence Parent, je vous rappelle que c'est la nouvelle représentante des usagères et usagers du transport adapté au conseil d'administration de la STM. Merci, Laurence Parent.
Merci beaucoup.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi
Question. Saviez-vous que le 3 décembre était la Journée internationale des personnes handicapées? Qu'est-ce que cela vous inspire?
C'est une question importante. Hein? On était le 3 décembre, il n'y a pas si longtemps, cette journée où on rappelle les droits des personnes en situation de handicap. Il y a des gens qui ont déjà répondu via les réseaux sociaux et entre autres, il y a une lettre qu'on nous a envoyée et j'aimerais vous en lire un extrait. C'est très important qu'on comprenne ce qui se passe souvent quand on est en situation de handicap. Donc, je vais taire le nom, mais c'est une dame qui s'est adressée au Dr Barrette puisque, et je la cite, « Le 2 novembre 2016, après des mois de douleurs inexpliquées et d'affaiblissement de mes jambes, je chute dans l'escalier intérieur de mon domicile. » Incapable de me relever, mon conjoint me traîne jusqu'à la voiture et nous rendons à l'hôpital St. Mary's où je dois passer des tests. L'effet des antidouleurs pour un traitement passé, on me roule jusqu'à l'urgence. Après une radio, on décide de me garder pendant 3 semaines. Je ne marche plus depuis. Et donc, j'arrête de citer Madame en question, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Devenir en situation de handicap et les services sont déterminants dans la possibilité de continuer une vie comme on aimerait, comme tous les autres citoyens la mener. Elle retrace dans sa lettre qu'elle est plus ou moins emprisonnée dans sa maison depuis, puisqu'elle attend des nouvelles du PAD. Et donc, elle écrit « Mon excellent ergothérapeute m'a inscrite au programme PAD en mars 2017 et j'y ai été acceptée en juillet. » Or, nous voilà en fin novembre. Et toujours pas l'ombre d'une rampe d'accès. Je ne peux pas me rendre à ma voiture, au transport adapté, au médecin de famille, à mon hôpital, et de ce fait, vers la guérison, je suis prisonnière. Et donc, vous comprenez, j'arrête de la citer, vous comprenez que c'est le programme d'adaptation domiciliaire qui ferait le changement pour cette personne-là. Alors, pour qu'on continue d'avancer dans la reconnaissance des droits des personnes, il faut commencer à être capable de s'assurer que les personnes chez elles sont accessibles. Donc, continuez de nous en parler, de nous expliquer à quel point vous trouvez que ça a évolué ou pas, ou les choses qui restent à faire après le 3 décembre. Ici Benoît Racette, je suis avec toute une équipe pour faire cette émission. Je remercie les gens qui sont venus et je remercie particulièrement Maurice à la mise en onde et Christiane Campagna en communication, en plus de Anne-Laure Janson à la recherche. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page de l'émission canalm.vusezvoix.com tous les intervenants qui sont venus ici. Et donc, moi, je suis là avec vous la semaine prochaine, avec d'autres gens passionnants, dans l'espoir qu'on fasse ensemble un véritable accès libre.